Bonsoir à toutes et à tous, Nathalie Barge, pour vous présenter votre émission hebdomadaire « L'Amérique et vous » ce vendredi sur VOA Afrique. Et c'est à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse que nous allons parler aujourd'hui de la couverture de l'actualité américaine par les médias américains et étrangers, qu'ils soient anglophones ou francophones. Quel regard peut-on porter sur la manière dont est traitée cette actualité ? Les médias et journalistes dans le monde font-ils preuve d'impartialité sur les sujets politiques américains et autres ? Est-ce que la presse nationale américaine rapporte les faits sans parti pris ? Ce sont diverses questions que nous allons nous poser. Nous ouvrons justement ce débat avec nos invités, trois journalistes et éditorialistes, à commencer par Dame Babou. Dame Babou, qui est en ligne à Dakar. Alors, Dame est journaliste à New York. Il est correspondant de Sud Communication, Sud FM, SEN Radio, sudonline.sn. Il anime une émission radio en français et wolof à New York et traite notamment de l'actualité américaine pour l'Afrique. Dame Babou, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir, c'est un plaisir pour moi.
Tout le plaisir est pour nous. Nous avons René Lake, qui lui est à Washington. Il est également journaliste. Il est spécialiste des médias et questions américaines. Il a écrit notamment plusieurs ouvrages, dont Le pluralisme radiophonique en Afrique de l'Ouest. Il est président de CNEPlus.com, AbidjanPlus.com, BeninPlus.com, entre autres. René Lake, bonsoir et grand merci d'être avec nous également.
Bonsoir et c'est tout mon plaisir d'être avec vous.
Alors nous essayons de joindre également à Conakry, Mohamed Mara, qui est journaliste, éditorialiste, analyste politique à Ambafo Média. Donc on va déjà débuter ce débat et nous continuons de tenter de joindre Mohamed Mara. Donc voilà cette question-là, la presse américaine. Alors la presse américaine, elle est secouée par de nombreux remous, notamment sous la présidence de Donald Trump. On sent que c'est une presse vraiment très chauffée par tous les événements qui peuvent se passer ici et là. Et peut-être la première réflexion que l'on pourrait faire, si je me tourne vers Dame Babou, la première réflexion qu'on pourrait faire par rapport à cette couverture de la politique américaine aux États-Unis par la presse américaine, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans un premier temps si l'on compare un petit peu avec l'ancien président Barack Obama? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de couvrir la politique américaine depuis que Donald Trump est au pouvoir? Selon vous, Dame Babou.
Oui, c'est vrai qu'il y a une différence. Il y a d'abord l'aspect émotionnel, la presse à un moment donné, en particulier quand il s'agit de la presse qui parle aux Africains. Le président Barack Obama, chacun considérait par exemple comme on dit en anglais, stockholder, chacun y avait un intérêt direct, émotionnel, voire personnel. Donc il y avait ça. Il y a aussi le fait que la presse, la couverture de l'actualité américaine et en particulier l'actualité politique dans le monde francophone en Afrique, c'est plutôt un prolongement de la lecture de la presse française de la politique américaine qui a ses tiroirs, qui a déjà des positions presque prédéterminées et qui fait une lecture comparé à la presse, à la politique française, c'est ça qui est transmis malheureusement à l'Afrique. Le très peu de journalistes comme nous qui sommes sur place et sur le terrain, qui essayent de donner un angle de lecture, la plupart c'est une couverture nationale pour un pays particulier, voire pour un médium particulier dans notre propre pays. C'est ça qui explique la plupart, l'opinion africaine, en tout cas francophone, je ne connais pas très bien l'opinion africaine anglophone, mais dans les pays dits francophones, c'est presque un prolongement de la couverture de la presse française. Il y a maintenant l'aspect subjectif qui est que depuis un certain temps, l'opinion africaine est plus réceptive à ce qui est critique ou bien un relais de la réalité que représente Donald Trump.
Merci beaucoup, restez avec nous. René Lake, pour appuyer, confirmer ou non ce propos, et qu'est-ce qu'on peut dire finalement par rapport à la couverture de l'actualité américaine? Est-ce qu'il y a une différence justement entre la presse, d'une manière générale, hein, entre la presse francophone et la presse anglophone dans sa manière de traiter l'actualité américaine?
Oui, en fait, ça dépend de quelle presse francophone et quelle presse anglophone on parle. Dan Babou a parlé avec beaucoup de pertinence de la presse francophone. Par rapport à la presse anglophone, si on prend en tout cas la presse anglophone en considérant qu'elle est influencée, elle, Dan disait, par rapport à l'Afrique, elle est plus influente du venant de la France, je dirais que la presse anglophone, une influence venant ne serait-ce que pour des raisons linguistiques, venant ici des États-Unis. Dans la presse ici, la presse anglophone est de plus en plus éditorialisée, ce qui était jusque-là une caractéristique de la presse francophone et non pas de la presse anglophone. Parce que dans le système français, depuis la révolution de 1789, de plus en plus, la presse était une presse d'opinion, essentiellement une presse d'opinion. Alors qu'aux États-Unis et dans les pays anglophones, on avait plus souvent une presse de type commercial, où c'était une entreprise commerciale. Et de plus en plus, et le summum auquel nous sommes arrivés, c'est maintenant avec l'ère Trump, la presse américaine est en train de s'éditorialiser, de devenir de plus en plus une presse d'opinion, notamment à cause des câbles news, de l'information continue. Et je crois que, bon, on en discutera certainement, l'arrivée de Fox News aux États-Unis a joué un rôle déterminant, à mon avis, pour accélérer le processus qui, lui, alors, est arrivé à son sommet avec l'ère Trump, où de plus en plus, y compris des journaux, des journalistes connus pour leur objectivité, pour leur professionnalisme et la limitation de leur intervention à des faits, et non pas à servir des opinions, de plus en plus, on voit, on entend des éditoriaux, puisque on entend des informations, la livraison d'informations en se limitant aux faits.
Alors, on peut entendre, comme vous le dites, des éditoriaux, que ce soit pro-Donald Trump ou contre Donald Trump, n'est-ce pas? C'est cela que vous voulez dire?
Oui, tout à fait. En fait, vous voyez par exemple, l'exemple que je donne souvent, l'un de mes journalistes préférés de la presse télévisuelle aux États-Unis sur CNN, c'est Anderson Cooper. Et c'est vraiment celui qui, pour moi, représentait un peu, à part John King, bien entendu, qui restait très, très distant, à part lui, quand on voit Anderson Cooper, il le faisait son bulletin d'information de 20 heures était un bulletin d'information purement journalistique. Mais depuis l'arrivée de Trump, et 6 mois après l'arrivée de Trump, tous les journalistes se sont un peu cherchés dans un premier temps. Et après, maintenant, tout le monde commence son bulletin d'information par « my take », en voulant dire « voilà mon opinion, ce que je crois », pour utiliser une formule de Benyamin Jeune Afrique, et exprime clairement un point de vue pour ou contre Trump, en général contre Trump, parce que c'est souvent aussi en réaction aux attaques dont la presse elle-même est l'objet vis-à-vis de Trump. Parce que l'une des caractéristiques de l'ère Trump, c'est que Trump a fait de la presse un élément central de son discours politique. Donc la presse aujourd'hui est un acteur politique aux États-Unis. Et ça, je pense que ça a une répercussion un peu partout. Et ce que je vois de la presse anglophone en Afrique et même dans d'autres pays, y compris en Angleterre, je vois que c'est le même type de réflexe, le même type de contenu que l'on retrouve. Où tout le monde a une opinion en général assez tranchée sur la question Trump. Et donc les questions liées à la politique américaine sont généralement présentées sous ce prisme-là.
Merci beaucoup René Lake, restez avec nous. On a justement pu joindre Mohamed Marin, donc journaliste, éditorialiste, analyste politique à Conakry. Mohamed, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous avez pu suivre un petit peu le début de la discussion? Je vous resitue hein, pour ça. On a donc entamé le débat sur la question de la couverture donc de l'actualité américaine par la presse, non pas seulement par la presse américaine, mais par la presse également en Afrique. Et René Lake a dit quelque chose de particulièrement intéressant également, disant que la presse, c'était de la presse anglophone, d'une manière générale, s'était éditorialisée beaucoup plus par rapport à la presse française, qui a l'habitude de le faire hein, à travers l'histoire. Et il a notamment dit que cette presse devenait un acteur politique aux États-Unis. Est-ce que vous, à partir de Conakry, lorsque vous suivez un petit peu les événements aux États-Unis et notamment lorsque vous analysez cette presse américaine, est-ce que vous avez ce même sentiment-là? Est-ce que vous avez ce sentiment et surtout, est-ce que vous avez que cela peut déteindre d'une manière ou d'une autre sur la presse africaine lorsqu'elle va traiter justement des informations américaines?
Alors, chez nous, nous avons exactement la même perception, notamment, je suis moi-même d'ailleurs éditorialiste, donc je remarque effectivement que de plus en plus, dans la presse américaine, dans ce genre journalistique, ça commence à trouver toute sa place. Hein. Le seul bémol est que dans un pays comme le mien, la Guinée, où il n'est pas généralement admis que le journaliste, si vous voulez, soit très marqué politiquement, c'est parfois mal perçu. Mais c'est un héritage lourd que nous avons un peu de la France, où en général les journalistes sont des directeurs, des objecteurs parfois d'opinion, de conscience. Donc, mais c'est vrai que nous observons tout cela. Mais ce que je remarque le plus aujourd'hui dans les pays francophones particulièrement, c'est que alors les informations qui nous arrivent de l'Amérique, d'abord ne sont pas des informations de première main. Et cela pose un problème, notamment pour les analystes d'accord que nous sommes. Puisque généralement, c'est le point de vue de la presse française, donc avec un regard franco-français, avec un prisme français, qui nous parvient généralement en Afrique, surtout francophone. Or, si tu connais la presse française, c'est très, très marqué par des prises de position sur le plan politique, une presse parfois proche, soit de la droite ou de la gauche. Alors, il faut savoir tout de suite faire la part des choses pour comprendre. Mais en général, le regard qui nous parvient, c'est d'abord le regard en général des autorités françaises qui nous parvient à travers la presse française en Afrique. Donc, pour nous, pratiquants de la presse, professionnels de la presse, nous sommes obligés directement de nous intéresser à l'actualité américaine à travers les articles de presse. Or, il y a une barrière linguistique qui se dresse tout de suite pour la plupart d'entre nous. Donc, ce qui vous oblige parfois à utiliser des détours, notamment des traductions, pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on remarque que depuis notamment 2 ou 3 années, je dirais peut-être légèrement un peu plus, surtout avec l'arrivée de M. Donald Trump au pouvoir, on remarque de plus en plus des opinions assez marquées dans la presse américaine. Et puis, pour moi, peut-être l'ironie du sort que je vis en Guinée, il y a comme une petite similitude aujourd'hui entre la presse américaine et la presse guinéenne. Quand on sait que chez nous, nous avons un nouveau président qui n'hésite pas à pourfendre la presse, qui n'hésite pas parfois à considérer la presse comme étant un adversaire, il n'est pas rare que des journalistes ou éditorialistes comme moi soient parfois accusés d'être de l'opposition ou très proches de l'opposition. Donc, on remarque cela également de plus en plus dans la presse américaine aujourd'hui, où on a l'impression que le monde acte du président et provoque une sorte de pelé en général de la presse. Or, avant, on prenait quand même un malin plaisir à lire la presse pro-démocrate et pro-républicaine pendant la campagne, mais après, tout nous paraissait un peu linéaire. Mais ce n'est plus le cas, c'est de plus en plus marqué, notamment en termes de prise de position dans la presse américaine. Et je pense que la situation est légèrement différente dans la presse anglophone du continent, qui ne connaît pas cette barrière linguistique, notamment, mais c'est vrai que la pratique du genre, notamment des éditoriaux, commence également à s'installer dans ce pays. Nous, nous en avons quelques-uns comme pays limitrophes, mais c'est vrai que la pratique des éditoriaux commence aujourd'hui à s'imposer dans ce pays-là. Sinon, dans l'espace francophone en général, les éditoriaux sont très privés, mais aussi les émissions comme des talk shows, parfois, un peu politiques, sont énormément privés. Donc, c'est quand même d'abord, si vous voulez, l'opinion des journalistes qui compte chez nous, parfois même, plus que les faits qui sont révélés dans l'information.
Merci beaucoup, Mohamed Mara. Restez avec nous. À ce propos, on peut revenir en matière de presse sur la relation houleuse, notamment entre le président américain Donald Trump avec le New York Times et CNN en particulier. L'on se souvient que M. Trump avait qualifié la presse notamment d'ennemi du peuple. Il s'était donc attaqué aux médias, on va dire, les plus emblématiques du journalisme américain. Avait qualifié donc le New York Times de défaillant et CNN de fake news. Et alors le 8 novembre, lorsque la Maison Blanche a révoqué l'accréditation du journaliste Jim Acosta après un échange houleux donc avec le président américain lors d'une conférence de presse après les élections de mi-mandat. Et alors ce qui s'était passé, c'est que dans la foulée, notamment le quotidien The Boston Globe avait lancé la campagne « Enemy of None », qui veut dire « ennemi de personne ». Et l'on sait que, d'ailleurs, depuis la présidence de Donald Trump, les deux médias les plus connus, CNN et le New York Times, ont accru le nombre de leurs abonnements et téléspectateurs. Alors, vu un petit peu de l'extérieur comme ça, d'une manière objective, est-ce que ce type de relation, tout de même assez particulière, on va le dire effectivement, entre le président Donald Trump et les médias, est-ce que ceci n'est pas une sorte de jeu entre justement ces pouvoirs qui se le permettent et quelles conséquences cela peut-il avoir? Je vais poser la question à Dame Babou, qui est à New York en temps normal, mais à Dakar actuellement. Est-ce que ce type de rapport entre un président américain et des médias peut avoir des conséquences particulières assez lourdes sur la manière dont on va couvrir dorénavant l'actualité politique aux États-Unis?
Je pense que René Lec avait dit quelque chose qui est important. La présidence du président Donald Trump a consacré un phénomène qui était presque impossible, qui est de faire de la presse des acteurs politique, pas simplement à cause du travail d'information et des faits qui révèlent, mais les pousse même à prendre des positions.
Mais alors attendez, excusez-moi, je vous arrête tout de suite, juste une petite minute. Est-ce que vous pensez, vous dites que le président pousse la presse à faire d'elle un acteur. Est-ce que la presse ne se doit pas elle-même de rester objectif malgré tout, quoi qu'il arrive?
Non, mais justement parce que le président Donald Trump, le fait d'être objectif et de donner les faits, ça vous transforme en ennemi du président de la République. Et tout corps attaqué réagit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau avec Donald Trump. Mais tout ce qui était un problème réel en matière de gouvernance, en matière de relations publiques, avec Richard Nixon, le président Donald Trump l'a poussé à un niveau caricatural. Et Donald Trump a utilisé cette presse-là pour consolider le soutien de sa base. Et c'est exactement ce qui pousse cette presse-là presque à se défendre et à tous les jours continuer à faire son boulot. Ce qui signifie aujourd'hui faire son boulot, c'est être anti-Donald Trump. Et au niveau de l'opinion, c'est avoir une position par rapport à Donald Trump et ne plus reporter les faits. Bon, c'est vrai que moi, je suis journaliste, René Lec est journaliste. Notre ami de la Guinée, lui aussi, comprend que... On reporte les faits, on prend de la distance, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'opinion. Mais acculer, les gens commencent à sortir leurs opinions, leur point de vue sur Donald Trump. Et ça a commencé avec le président Nixon. Si vous vous souvenez, l'ennemi du peuple, c'est pas Donald Trump qui a inventé le concept, c'était Richard Nixon. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, comme le dit notre ami, notre confrère qui est en Guinée, Nous avons une information de troisième main même de cette information au niveau du continent. Parce que même les médias américains qui prétendent parler à l'Afrique
ne leur parle pas de l'Amérique. Il leur parle de l'Afrique aussi, à part quelques émissions. Si vous regardez CNN International, qui est diffusé au niveau de l'Afrique, par exemple, il n'y a que deux, trois grandes émissions politiques le soir. Tout le reste, ça n'a rien à voir avec la politique américaine. Ce qui fait que aussi les médias américains, qui sont, y compris votre radio par exemple, ne parlent pas aux Américains. L'information qu'on donne aux Américains n'est pas la même qu'on donne aux Africains. Donc on se base, en tout cas les francophones d'Afrique, les pays dits francophones d'Afrique, à ce que l'interprétation qu'en font la presse française, ce qui est déjà une triple déformation. Alors, ce qui fait que le malentendu est là.
Alors, on va parler un petit peu des tweets du président américain, parce que ça rentre effectivement en ligne de compte énormément. On a remarqué que la presse américaine et autres, maintenant avec Internet, on a tous accès aux tweets du président américain, de tout ce qu'il peut dire, et donc ça a des conséquences assez importantes sur la manière de couvrir l'actualité américaine. Et la revue Columbia Journalism a publié justement le résumé d'un sondage récent mené par Media Matters for America. L'enquête a révélé que trop souvent les organes de presse ne parviennent pas à démystifier les fausses déclarations contenues dans les tweets du président américain. Alors Media Matters a constaté que sur une période de 3 semaines, les médias avaient tweeté des déclarations fausses ou trompeuses de Donald Trump sans les corriger clairement dans le corps du tweet à 65% du temps. Et quand un président parle, poursuit donc la revue, ce qu'il dit est selon les normes journalistiques intrinsèquement digne de l'actualité. Mais si un président dit quelque chose d'inexact sur les médias sociaux, lors de conférences de presse et lors de discours, les agences de presse doivent reconsidérer les anciennes règles qui nous demandent d'imprimer, de tweeter ou de diffuser tout ce qu'il dit. Et alors, d'après les chiffres, les points de vente ont ainsi amplifié des revendications fausses ou trompeuses, près de 20 fois par jour. Alors, la question à propos de ces tweets, ces tweets très célèbres du président que je poserai à René Lake, est-ce qu'en tant que journaliste, il faut, selon vous, entrer dans ce jeu, finalement, que visiblement, qui plaît beaucoup au président américain, de tweeter tous ses sentiments, et dans quelle mesure doit-on rapporter, selon vous, ce genre de tweet dans la presse?
Oui, écoutez, c'est une question extrêmement difficile qui s'est posée. Tout le phénomène dont on parle là, d'une sorte d'éditorialisation de la presse, c'est justement la difficulté que la presse a eue à s'adapter à cette nouvelle ère Trump. D'une part, par rapport à ce que Dan disait tout à l'heure, qu'en réalité, Trump a comme un acteur politique, comme un ennemi. Il a bien rappelé, il a dit à bon escient que c'était déjà avec Nixon le disait, mais si vous regardez en Europe, c'était au milieu du siècle dernier, du XXe siècle, que dans le grand moment fasciste de l'histoire, que les fascistes appelaient la presse les ennemis du peuple. C'est là la véritable origine de l'expression. Donc, avec l'arrivée de Trump, la presse a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'ajuster. Qu'est-ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on devait se limiter simplement à dire « voilà ce que dit Trump » et faire un reportage sans pourtant le contextualiser? Ou est-ce que l'on devait le contextualiser? Si on commence à trop contextualiser, on rentre justement dans l'éditorial. Et ça a été la grande difficulté. Même là, quand je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un comme Anderson Cooper, j'ai pu voir, j'ai fait l'impression, j'ai suivi au fil des mois, au fil des années, comment il a évolué. J'ai vu la difficulté que les gens ont. Il y a un analyste...
Alors René Lec, on vous a perdu. Restez avec nous, on arrive au terme de l'émission. On arrive au terme de l'émission. Je voudrais avoir un dernier mot très rapidement de Mohamed Marah en ce qui concerne peut-être un point positif, bien entendu, sur le journalisme aux États-Unis.
Alors, écoutez, ce qui nous marque, mais surtout d'Afrique, dans le journalisme américain, c'est que c'est surtout la presse d'investigation. Lorsqu'on tient, alors là, un dossier, on va jusqu'au bout. Or, en général, en Afrique, en tout cas la grande majorité des pays encore, cela est extrêmement compliqué. Et parfois, vous
et merci beaucoup, Mohamed Mara. René Lec, je suis obligée de vous couper. On arrive au terme de l'émission et c'est la liberté de la presse, justement, ce dont vous venez de parler aux États-Unis. Un grand merci à tous. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.